cette intervention sur l'analyse d'image va commencer par une projection d'une image que je vais vous demander très rapidement de décrire et d'analyser, puisque c'est l'objectif. Ça prendra très peu de temps, on va gagner du temps sur tout, mais de toute façon, il n'est pas requis d'en dispenser plus pour ça, pour le moment. Donc vous allez noter ce que vous voyez et ce que vous interprétez pendant 2-3 minutes tout au plus. Alors j'espère que vous le voyez bien, moi je me retire. Ce serait bien si on pouvait quelques instants éteindre de telle sorte que vous... Ah, c'est au fond. Voilà, vous regardez ce document et puis vous... J'espère que vous le voyez. Il est un peu tronqué dans le bas, c'est dommage. Ça va s'améliorer, dans quelques instants vous ne verrez plus que lui. Alors c'est important que vous notiez sur le... C'est une sorte de petit contrat. Hein, vous notez sur cette feuille que vous avez devant vous ce que vous voyez. C'est important que ce soit stabilisé par l'écrit. Voilà, je pense que vous avez terminé. Vous gardez cette feuille, on ne s'en sert pas tout de suite. Avant, je vais... vous dire un petit peu ce que je vais faire ce matin. Je sais que vous êtes des élèves de lycée. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous êtes en terminale ou en première et que donc le baccalauréat vous tend les bras et qu'au baccalauréat, il y a un certain nombre d'épreuves qui sont liées à l'analyse de l'image. Souvent, c'est ainsi que c'est intitulé, ou analyse de documents visuels. Je ne sais pas exactement comment sont rédigés les textes officiels. Je viens de marcher sur mon micro. Bon, c'est une chorégraphie difficile, j'ai peu de place et beaucoup de fils dans les jambes. Donc, je disais que, puisque vous aurez à rédiger quelque chose autour de la question de l'analyse d'image, j'ai véritablement pris, comme si j'étais un élève de terminale, en quelque sorte, le sujet qu'on m'avait donné, l'analyse d'image, au pied de la lettre. Et je me suis posé la question, que je vais débattre tout seul pour un temps, et peut-être avec vous tout à l'heure, de ce que c'est que l'analyse d'image. Alors, dans un premier temps, je vais questionner le problème de l'analyse, qui est un mot tout simple, qu'on utilise régulièrement, mais qui n'est pas en soi un mot n'a pas de poids dans le travail que nous allons faire ensemble, l'image ou les images aussi. Et puis cette question particulière qui consiste à se poser le projet de développer des analyses d'images. Alors commençons, que j'ai nommé déjà ici, des métadiscours, c'est-à-dire des discours qui sont seconds. On a un document devant soi et on va traiter de ce document. Donc on prend une position méta par rapport à ce qu'on suppose être un discours déjà donné par l'image. Alors il y aura beaucoup de schémas de ce genre-là, j'espère que vous les voyez, ils sont assez grands, enfin en tout cas j'ai veillé à ce qu'ils soient assez grands, peut-être parfois seront-ils coupés par les tables du bas de l'écran. Est-ce que dans le fond vous arrivez à lire? Non. Alors là je ne peux rien faire pour vous. C'est désespérant, mais c'est le problème des salles très très longues. Je ne peux rien agrandir. Je vais lire un tout petit peu. Donc, le problème de l'analyse, c'est que c'est un dispositif scientifique qui appartient à un courant scientifique qu'on appelle le réductionnisme. Le réductionnisme a pour projet, en tout cas affiché depuis plusieurs siècles, mais notamment réaffirmé par Descartes, de considérer que le tout, le phénomène qu'on va étudier, est divisible en ses parties, et puis chaque partie peut être divisible à son tour, jusqu'à atteindre l'élément non divisible. Une fois qu'on a atteint ce segment, cet élément non divisible, eh bien on l'étudie. Et quand on a fait ce travail sur chacun des segments, sur chacune des parties, alors on remonte en faisant la somme de toutes ces parties, et on considère que la somme de toutes les parties est égale à la totalité du phénomène observé. Ça marche. Ça marche particulièrement dans les systèmes qui sont simples ou dans les systèmes qui sont linéaires, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de faire la somme des parties et d'obtenir à peu près ce qu'on a dans la totalité. Ça ne marche pas toujours. Il y a de très nombreux objets qui sont... Objets, ça veut dire phénomène à étudier. Qui sont récalcitrants à l'analyse. Souvent, on utilise ce terme d'ailleurs pour dire étude. Mais ce n'est pas l'équivalent. Une étude peut passer par l'analyse, et quand elle passe par l'analyse, alors elle segmente et elle fait une somme des parties qui ont été étudiées. Ça ne marche pas bien avec l'image, sauf avec les images très simples, et encore. Ça ne marche d'ailleurs pas vraiment bien avec le texte, quoi qu'on en pense. Les images sont des dispositifs interconnectés de nombreuses parties qui elles-mêmes sont interconnectées et qui font un tout. Donc, comme je l'ai indiqué ici, et pour ceux qui ne voient pas de très loin, l'image est un dispositif synoptique, c'est-à-dire qui se voit ensemble, du grec « syne » pour « syne ». C'est aussi un dispositif souvent synchronique, sauf pour les images en mouvement. C'est-à-dire que tout est presque perçu dans le même temps. De même, l'image a un impact particulier sur notre perception, c'est qu'elle fonctionne selon un mode synthétique. Tout est posé ensemble. L'analyse a donc de grandes difficultés à découper et à traiter morceau par morceau. Je ne sais pas du tout ce que vous enseignent vos enseignants, je ne suis pas là du tout pour contrarier leur approche pédagogique. Vous verrez d'ailleurs après avec eux comment réutiliser ce que j'ai pu dire. Mais quand on segmente par exemple une image en décidant d'étudier les couleurs, puis la lumière, puis les formes, puis l'organisation dans l'espace, etc., on procède à une analyse et souvent, en faisant ainsi, on manque l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire la totalité du document qui nous est présenté. De la même façon, selon les recommandations de Descartes et d'autres d'ailleurs à sa suite, on a considéré que pour procéder à une analyse, il fallait extraire ce qu'on étudiait de son contexte, comme s'il existait des objets purifiés de laboratoire qu'on pouvait étudier indépendamment des conditions dans lesquelles ils sont produits ou dans lesquelles ils sont reçus, perçus, etc. En deux mots, on peut d'ailleurs dire que les conditions du laboratoire ou les conditions de la classe dans lesquelles on va faire une analyse sont des contextes particuliers, des contextes scolaires, des contextes de laboratoire. Donc je l'ai déjà un peu dit, l'analyse a des difficultés à prendre en charge la complexité de l'information visuelle, de l'information détenue par les images. Même des petites images très simples, comme un pictogramme, comme un signal de la circulation routière, qui sont souvent bien plus sophistiquées qu'on ne le pense. Donc l'analyse a des grandes difficultés à traiter des relations entre les composantes. Elle ne sait pas bien apprécier les réseaux et leur fonctionnement, elle ne sait pas bien repérer les liens. Elle a des difficultés à prendre en considération les choses qui sont en système et qui ont donc des relations systémiques. Systémique, c'est le mot que vous entendez en ce moment, parce que, évidemment, on pense que tout à coup, toutes les banques, etc., sont dans une relation systémique. Ça veut dire que tout est en relation et qu'un petit événement qui affecte une composante risque, finalement, à terme, plus ou moins rapidement, d'affecter toutes les composantes du système. Et bien, une image, c'est ça. De la même façon qu'une image, c'est quelque chose qui relève à la fois de la production, quelqu'un la produit, de l'émission, quelqu'un l'affiche ou la médiatise, et bien évidemment de la réception. Traiter d'une image, c'est presque obligatoirement traiter des trois niveaux, à moins qu'on ait une autre approche. C'est ce que je vais présenter dans quelques instants. De la même façon, les images font régulièrement partie de grands ensembles, ce qu'on appelle l'intelligence distribuée. C'est-à-dire que les images renvoient à d'autres images, à d'autres textes, à des comportements, à des usages, à des habitudes, à des objets qui s'inscrivent dans l'histoire, dans notre histoire individuelle ou notre histoire sociale, qui s'inscrivent dans des mots, comme ceux du titre, par exemple, de la légende. Et donc, on ne peut pas, finalement, analyser en décomposant et en prétendant, après avoir tout décomposé et tout étudié morceau par morceau, réussir à reconstituer une totalité. On est obligé donc de changer d'approche, et je pense que d'une certaine manière le mot « analyse » nous impose un type d'étude, et que ce type d'étude n'est pas tout à fait compatible avec l'objet qu'on veut étudier, les images, et que l'autre approche, qui est certainement plus juste, est de type holiste. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. En tout cas, la règle qui gère ce dispositif de l'holisme, c'est le suivant. Le tout est supérieur à la somme de ses parties. Dans une image, ce qui nous affecte, ce qui nous touche, pas seulement au moment où nous avons accès à l'image, mais ce qui va nous affecter dans toute la relation que nous pourrons avoir avec cette image tout au long de notre vie, car nous le verrons, les images, ça peut nous influencer pendant un long temps, eh bien, tout ça est supérieur à la somme des parties. Donc, je recommanderais une approche de type systémique, holiste, par rapport à ce qui est généralement utilisé, c'est-à-dire l'analyse. Passons de l'autre côté. L'analyse d'image. Alors, là j'irai très vite. Vous savez très bien qu'il n'y a pas un seul type d'image, mais de très nombreux types d'images. La première distinction que nous pourrions faire, c'est de savoir si nous parlons des images physiques, des images instrumentales, des images qui sont dans le monde physique, ou si nous parlons des images mentales, celles que nous avons dans la tête quand nous nous imaginons une scène, quand nous lisons un livre, quand nous écoutons de la musique. Il y a des images mentales qui ne sont pas toutes d'ailleurs des images mentales visuelles, mais qui peuvent être des images mentales sonores, qui peuvent être des images mentales comportementales, physiques, venant des muscles, du corps proprioceptif ou kinesthésique, venant des muscles eux-mêmes. Il faut donc pouvoir faire la différence entre le type d'image auquel on a accès. On va supposer qu'on traite ici des images qui sont dans le monde physique, mais ces images qui sont dans le monde physique, nous les représentons et nous avons une sorte d'interface mentale, pas toujours d'ailleurs, parfois nous agissons très très vite et nous n'avons pas besoin de constituer une interface mentale pour pouvoir nous représenter le monde des images avec lequel nous allons devoir fonctionner. Quand on est sur le bord de la route et qu'on a affaire à des panneaux de la circulation, on n'est pas en train de décoder ces panneaux pour essayer de savoir ce que ça veut dire qu'un virage dangereux à droite. On traite l'information à très très grande vitesse et ça ne passe pas par le système de représentation du cerveau. Donc ce n'est pas vraiment une image mentale qui vient servir d'interface, mais une action immédiate. J'en reviens aux images du monde physique. Elles peuvent être fixes, elles peuvent être en séquence, la bande dessinée par exemple, le roman photo et beaucoup de dispositifs de communication dans les modes d'emploi. Elles peuvent être animées, évidemment, le film, le dessin animé, etc. Ou interagies. C'est une grande révolution qui est apparue il n'y a pas très longtemps. On ne pensait pas que les images pouvaient être autres que des images à distance. On ne savait pas qu'on pouvait entrer dans les images et interagir avec les images. C'est ce qui apparaît dans le jeu vidéo, dans tous les dispositifs dans lesquels il y a une interaction entre l'acteur et le spectateur. On dit d'ailleurs le spectacteur, pour distinguer les deux types de documents visuels auxquels on peut avoir affaire. De la même façon, il y a des images de genres très différents. Par exemple, alors c'est tout en bas là, pour ceux qui ne voient pas, ici il y a une typologie d'images qui peut grosso modo se résumer à deux grands axes. D'un côté les schémas, ce sont des images qui ont été neutralisées, simplifiées. Les pictogrammes, les diagrammes sont généralement des schémas. D'une certaine manière, ceci est un schéma visuel, c'est d'une certaine manière une image de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, distribué dans l'espace avec des mots et des cellules qui organisent autour de familles trop larges l'idée que aborder l'analyse d'image n'a de sens que dans la mesure où on sait de quel type d'image on va parler. Les images ont des genres, hein, elles sont des images de communication, des images documentaires, des images de propagande, de distraction. Pas la même chose du tout, une image documentaire et une image de distraction, ça n'a pas du tout la même vocation dans le monde, on ne va pas en faire la même chose. De la même façon, les images de l'art ne vivent pas dans le même régime, dans le même monde, que les images qui sont des images du journal télévisé, par exemple. Donc les processus d'interprétation qu'on va développer pour interpréter des images de l'art ne sont pas du tout de la même nature que les processus qu'on va développer pour analyser une photographie dans un journal, par exemple, ou un document qui fonctionne sur le mode historique et non pas d'histoire de l'art. De la même façon, certains documents visuels, parce que je me suis rapproché, vous l'avez compris, des images visuelles, extérieures, certains de ces documents sont plus autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés par leur constructeur pour pouvoir résister à différents contextes, pour pouvoir résister dans le temps, alors que d'autres sont des documents visuels qui sont juste produits pour fonctionner dans le moment de l'usage. Un enseignant qui fait un croquis au tableau ne cherche pas à ce que ce croquis reste définitivement une image stable de l'information qu'il veut faire passer. C'est quelque chose qui peut être lié complètement à l'interaction, au moment vécu avec ses élèves. Donc, on aura toute une série de régimes d'images, et bien évidemment, l'analyse d'images, ou plutôt l'étude des images. Pardon. Je vais raccrocher le micro. Pardonnez-moi pour cette interruption du son. Du son enregistré.
J'ai essayé de le coincer.
Je marche dessus, c'est pour ça. Voilà. Alors, étape suivante, un petit peu plus compliquée. Évidemment, j'ai un problème majeur, c'est que une partie de ma démonstration se trouve projetée sur la table et vous ne la voyez pas. Ce qui, c'est la partie la plus intéressante en plus, c'est ça le drame. Bref, je résume. Une approche plutôt systémique, c'est-à-dire une approche de l'image plutôt comme système dans son environnement, dans ses usages, dans ses pratiques, c'est ce que ça incite à faire. Les images bien définies, de quel type d'image parle-t-on ? On n'analyse pas, on n'étudie pas une bande dessinée de la même façon qu'on étudie un film ou un jeu vidéo ou une publicité dans un journal ou un schéma ou un pictogramme dans la rue, si on est en train de conduire ou si on n'est pas en train de conduire. Tout ça, ce sont donc, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, des métadiscours, c'est-à-dire des discours en second, dans lesquels on sait qu'on est en train de produire un discours. Donc, contrairement à l'usage ordinaire d'une image, on est devant l'image, on la reçoit et elle a son impact immédiat, si on est attentif à cette image, si elle a du sens pour nous, dans le moment où on en a besoin. Le moment de l'étude d'un document visuel réclame une mise à distance. Ce n'est pas du tout une activité ordinaire. Dans la vie de tous les jours, on ne fait pas ça, on n'a pas le temps. C'est une activité plutôt scolaire, c'est une activité plutôt universitaire, académique, c'est-à-dire dans ces lieux un peu particuliers dans lesquels on s'arrête de vivre normalement, la preuve, et on va avoir des activités tout à fait extraordinaires. On va regarder les choses qu'on fait normalement en prenant de la distance avec nos comportements habituels. Le résultat, c'est qu'on va étudier des objets qui ne sont pas ceux de la vie, mais qui sont des objets artificiels, qui sont construits spécialement pour l'école, spécialement pour l'université, spécialement pour la recherche. Alors, il y a plusieurs types de métadiscours. On peut, et c'est ce que vous aurez certainement à faire, on peut rédiger. Je vous ai demandé ce matin, très brièvement, de rédiger 2-3 lignes au sujet de l'image que j'ai projetée. Ça peut être un oral. On peut avoir à parler, à commenter des images. On peut le faire de manière audiovisuelle. D'ailleurs, de plus en plus, la télévision le fait. Elle analyse. Il y a des émissions qui sont spécialisées pour l'analyse des documents visuels. On peut le faire de façon multimédia, c'est-à-dire qu'on peut travailler de telle sorte qu'il y ait une interaction entre la personne qui regarde le métadiscours et y entre. Et puis, on peut le faire de façon méta-iconique. C'est juste un petit tuyau que je vous donne. Ça veut dire qu'on va analyser l'image par les moyens de l'image. Par exemple, on va faire un schéma de l'image. Normalement, dans les épreuves que vous aurez à passer au baccalauréat, on vous demandera d'étudier l'image, et ce n'est pas forcément les mots qui seront le meilleur véhicule, qui permettront de faire le meilleur métadiscours au sujet de l'image. Souvent, ce sont des images elles-mêmes, des images d'une autre nature, des schémas, des croquis, des esquisses, des plans. Donc, bien évidemment, quand les médias sont de type multimédia ou plurimédia, plusieurs médias en même temps, par exemple une dissertation qui va mêler du texte, des schémas, des croquis autour d'une image. Ça, j'en suis là. Maintenant, je pense que vous voyez de moins en moins bien parce que la tête de votre voisin de devant vous cache le bas de mon organigramme. Je vais le lire. Il y a 3 ou 4 grandes phases dans l'analyse d'image et dans l'approche systémique de l'image, dans l'approche globale. une première phase qu'on appelle de description, dont le nom savant est l'ekphrasis. C'est écrit là, E-K-P-H-R-A-S-I-S. C'est une phase pendant laquelle on pense qu'on est en train de décrire un document de la façon la plus neutre possible. C'est-à-dire sans théorie, sans préjugés, sans système interprétatif déjà engagé. En fait, comme je vous le montrerai tout à l'heure, c'est impossible. Il n'y a pas de description sans processus interprétatif déjà engagé. Ensuite, on procède à ce qu'on appelle l'exégèse. C'est la même chose pour les textes. Hein. On fait la même chose pour les textes. Hein. Pour le moment, rien de nouveau. Donc, on va essayer d'expliquer le fonctionnement du document, texte, image, image fixe, image animée, et proposer une interprétation. C'est à peu près la même opération que dans la phase suivante, qui est dite herméneutique, toujours des mots savants, grecs en général, tous d'ailleurs ici. Là, on est plutôt dans la construction, on est véritablement dans le métadiscours, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire un dispositif qui va bien rendre compte du document qu'on est en train d'étudier, qu'on a d'abord décrit en pensant être neutre, et qu'on va ensuite interpréter en étant, pense-t-on, au plus proche de l'image. Et puis, normalement, c'est pas ce qui se passe en lycée, mais c'est ce qui se passe, par exemple, à l'université, on est censé produire une théorie de ce qu'on vient de faire, de l'opération qu'on vient de faire. En gros, si vous avez connaissance des opérations logiques qui sont sous-tendues par ce genre de choses, on est un petit peu dans les phases de l'abduction, c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse, ça a l'air de fonctionner comme ça, ensuite on entre dans l'induction, on dit tiens, voilà, tel exemple, tel exemple, tel exemple, et puis finalement, on passe à la déduction, on essaie de tirer des lois générales de ce qu'on a observé. C'est normalement le sens de toute dissertation, de tout métadiscours qui se tiendra sur un document qu'on étudie, quelle que soit la discipline. Alors, c'est là que je passe dans la partie en dessous des tables. Je le regrette, mais je n'ai pas réussi à changer l'orientation du vidéoprojecteur. Et donc là, j'ai indiqué un certain nombre de genres de discours, parce que ça varie en fonction des lieux dans lesquels on se trouve. Par exemple, il y a des approches analytiques ou systémiques globales de l'image qui sont de type littéraire ou poétique. En français, vous avez certainement, en cours de français ou littérature, vous avez certainement des documents à analyser. Eh bien, c'est un genre particulier. On attend de vous un type de discours particulier qui est le type de discours du genre activité littéraire. La psychanalyse, j'en dirais rien, mais c'est aussi. Les psychanalystes ont toujours eu beaucoup d'intérêt pour les images et ont donc livré un discours sur les images. Il y a de nombreux auteurs qui travaillent sur ça. Freud, le premier d'ailleurs, avait travaillé sur ça. Il y a un discours de type philosophique et esthétique. L'esthétique est une des branches de la philosophie qui s'intéresse particulièrement au jugement de goût, à l'évolution du goût et de la beauté, par exemple, mais pas que de ça, de l'art aussi, beaucoup. Et c'est un type de discours particulier qui est tenu au sujet des documents visuels. Et puis, il y a un autre type d'activité, juridique et policier, par exemple. Les juges, les policiers, sont souvent confrontés à des photographies ou à des documents de type photographique ou filmique, et ils ont à les étudier avec une approche, on l'imagine, très différente de celle de l'approche qu'on peut faire en littérature. Les conséquences sont cette fois-ci d'une autre nature. Si on fait une interprétation d'un document visuel qui est d'ailleurs cadré par la loi, on ne peut pas utiliser un document visuel de la même manière qu'un document écrit ou qu'un document oral. Eh bien, si on fait une interprétation d'un document photographique dans un procès, les conséquences seront totalement différentes de l'interprétation qu'on en fera dans le cadre d'une dissertation en littérature. D'un côté, on peut, sans grand risque, sauf celui d'avoir une note assez basse avec un hors-sujet, dire un peu n'importe quoi sur ce qu'on est en train de voir, en justice, normalement, ça a des conséquences. D'abord, il y a des gens qui s'opposeront, il y a un débat, il y a des gens qui vont dire que leur point de vue n'est pas le même, et puis la décision qui sera prise aura certainement des conséquences sur le plaignant, sur les gens qui seront condamnés ou pas, etc., etc. Et puis, dernier métadiscours, c'est le discours scientifique. C'est celui qui m'intéresse le plus. Moi, je suis professeur d'université, je suis sémioticien, c'est-à-dire spécialiste de la théorie des signes, et j'essaye de tenir un discours scientifique sur les documents visuels qui me sont présentés. Donc c'est de ça dont je vais parler assez rapidement, mais encore une fois, beaucoup de choses vont se trouver... Je suis un peu comme une araignée qui se débat au milieu de ses fils. Beaucoup de choses vont se trouver en dessous du niveau de lecture. La partie jaune clair qui est là-haut reprend ce que je viens de dire. Nous entrons dans la partie scientifique qui connaît aussi plusieurs types. Il y a des approches de type technique. On peut aborder les documents visuels avec une approche technique, technologique même. On peut le faire avec une approche de type poétique et pas poétique. Auparavant, j'avais parlé de littérature et de poétique, et là, je parle de poétique. La poétique a deux grandes branches. L'une qui s'intéresse à la question du faire, c'est aussi un mot grec, poïen, qui veut dire d'une certaine manière faire, mais aussi création. Donc, c'est à la fois, on s'intéresse à la question du faire l'image et à la question de la création et du processus de création de l'image. Je ne vous en parlerai pas ce matin, on pourra en parler longuement, mais ce n'est pas de ça dont je parlerai. Mais on pourrait s'intéresser à un document visuel, se demander comment il a été fait et quel est le processus créatif qui est en dessous. Les approches historiques, bien évidemment, et notamment toute l'histoire de la culture visuelle, dont une partie est réservée à un domaine particulier qu'on appelle l'histoire de l'art, donc histoire de la culture visuelle artistique, qui d'ailleurs abusivement étend son domaine au-delà du champ artistique. L'art, c'est une petite parenthèse, c'est un peu scandaleux ce que je vais dire, pardon au professeur d'art, mais finalement, l'art, c'est une petite parenthèse dans l'histoire de la culture humaine, et certains disent qu'elle est d'ailleurs fermée. En tout cas, par exemple, parler d'art pariétal, ça n'a pas vraiment de sens. On peut parler de culture visuelle de l'Aurignacien supérieur, on peut parler de la préhistoire, mais il n'y avait pas forcément d'enjeu artistique à cette époque. De la même façon qu'il est difficile de parler de l'art africain. Ça ne décrète pas du tout que les Africains ne font pas d'art. Ça décrète tout simplement que les pratiques culturelles des Africains n'étaient pas destinées à terminer dans des musées ou dans des collections, à être vendues dans le marché de l'art. Elles appartenaient à un domaine souvent cultuel, donc qui était lié à des cultes, et ça n'avait pas de destination artistique. Donc, méfiance à ce sujet. Donc l'histoire, qui a une branche tout à fait particulière, qui s'appelle l'iconologie, qui s'intéresse donc à, de la même manière, c'est une forme d'analyse des images et documents visuels, je n'en parlerai pas maintenant. La sociologie, qui s'intéresse beaucoup aux documents visuels, à la culture visuelle. La sémiotique, dont je suis un des représentants, mais dont je parlerai dans quelques instants plus en profondeur. Et puis la psychologie cognitive, qui s'intéresse bien évidemment aux images, telles qu'on les perçoit, au processus de perception, aux images mentales, aux images qu'on a dans notre système de représentation, et comment on interagit avec notre monde, aux images dans le monde, aux images qu'on a dans le système de représentation, et comment on arrive à fabriquer du sens et de l'action à partir de tout ça. Et puis, un domaine qui est très peu connu en France, malheureusement, qui est né en Angleterre d'abord et qui ensuite a été aux États-Unis avant de faire le tour du monde et qui arrive maintenant en France, c'est ce qu'on appelle les études culturelles, qui sont des dispositifs constructivistes. Constructiviste, je vais utiliser beaucoup de termes un peu savants, mais je vais les expliquer à chaque fois. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'essence, mais que tout est construit par des processus sociaux, par des organisations qui vont privilégier telle ou telle orientation, et que donc tel environnement produira telle construction, et tel autre environnement produira telle autre construction. Donc, on a une approche qui est de type constructiviste. Les images sont déconstruites et sont des phénomènes qui vont varier dans l'interprétation ou la réception va varier en fonction des cultures dans lesquelles on se trouve. Ça veut donc dire que cette approche constructiviste renverse complètement l'idée selon laquelle les images sont des moyens de communication universels. Non, les images ne sont pas du tout des moyens de communication universels. On a de très nombreux exemples dans l'histoire récente qui montrent que chaque culture a plutôt tendance à interpréter les documents à sa manière. Mieux encore, les approches culturelles disent que d'une certaine manière, être femme ou être homme, être dans un pays dominant ou dans un pays dominé, ça n'est pas du tout le même rapport au monde. Et que recevoir un film d'Hollywood quand on est au Burkina Faso, ce n'est pas du tout la même chose que de recevoir ce film quand on est à Los Angeles ou quand on est à New York, et que les conditions de réception sont complètement transformées par l'histoire, par le rôle social qu'on a dans le monde, par la position hégémonique ou dominée qu'on va avoir dans le monde, par le genre qu'on a Hein, si on est une femme ou un homme, c'est pas la même chose pour recevoir les images. Et quand on sait que la plupart des images ont été construites par les hommes blancs, des sociétés dominantes, eh bien, on sait qu'une grande partie de la culture visuelle est une culture qui s'adresse à ces populations et qui a un impact de type dominant, un rapport de pouvoir, une agence de domination sur les autres populations qui n'étaient pas destinées à recevoir ces documents, mais qui vont les subir en quelque sorte et qui vont voir leur représentation et leur mode de vie modelés en fonction des documents qu'ils vont recevoir. Donc, les études culturelles, qui sont de type constructiviste et qui s'intéressent particulièrement au rapport de pouvoir dans les fonctionnements de la communication, vont contribuer amplement à l'approche sémiotique, donc à la théorie des signes appliquée à l'étude des images, des documents visuels. Donc là, maintenant, on est très très bas. Vous ne voyez plus rien, il n'y a plus que moi qui peux voir. C'est bien de faire une présentation, une auto-présentation. On va considérer les images plutôt dans leur ensemble, dans leur système de connexion, dans leur environnement, dans leur contexte, dans la vie, dans leur vie. On va les prendre en considération dans leur histoire, on va les prendre en considération dans les processus sociaux qu'elles enclenchent, mais aussi dans les processus individuels qu'elles développent. Il y a deux grandes théories sémiotiques, il y en a une qui est d'origine européenne, peut-être avez-vous entendu parler de Ferdinand de Saussure, c'est un Suisse francophone, qui a développé une théorie linguistique qui va s'étendre l'ensemble des signes, et il l'appellera d'ailleurs lui-même la sémiologie, donc l'étude des signes au sein de la vie sociale, c'est ainsi qu'il la nommait, donc Ferdinand de Saussure, et ça va être le point de départ d'un grand mouvement intellectuel qu'on appelle le structuralisme, que probablement vous étudiez en philosophie, et ce grand mouvement va donner naissance à un ensemble de sémiotique, donc de linguistique d'une part, et de sémiotique qui va être attaché à la linguistique, c'est-à-dire qu'on va considérer que tous les phénomènes sont réductibles à la langue. Ce qui, assez rapidement, va se montrer une impasse. Malheureusement, j'espère que vous avez des enseignants clairvoyants, et s'ils ne le sont pas, eh bien, c'est l'occasion de se rattraper. Mais les approches structuralistes, qui ont été notamment incarnées par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Roland Barthes, sont à la fois très astucieuses, très, très bien faites, mais elles relèvent typiquement de ce mouvement structuraliste qu'on considère aujourd'hui comme dépassé. Voilà. L'autre grand mouvement sémiotique vient des États-Unis. Il est incarné par un grand chercheur de la côte est des États-Unis qui était d'ailleurs, comme Ferdinand de Saussure, à peu près, vivait à peu près à la même époque, donc un homme du 19e siècle, de la fin du 19e, puisque Charles Sanders Peirce est décédé en 1914. C'était un mathématicien, physicien, chimiste, philosophe, etc. C'est un grand savant, comme il y en a de temps en temps. Et il va inventer, lui, une sémiotique, une théorie des signes, qui va démarrer à partir de la logique. Donc, plutôt du côté de la philosophie et des mathématiques, plutôt que de la linguistique. Et c'est cette sémiotique qu'on appelle pragmatique, parce que c'est aussi l'inventeur du grand courant philosophique américain, le pragmatisme. C'est donc cette philosophie-là qui va être à la base de la sémiotique pragmatique, qui est donc enrichie au cours du XXe siècle de ses approches systémiques, de ses approches constructivistes, de ses approches interactionnistes. On considère que, finalement, être en relation avec une image, c'est d'une certaine manière interagir avec une image dans un monde de gens qui interagissent. Et aussi de type cognitiviste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au fonctionnement... Oups, là, je suis en train de mélanger les pieds dans le fil. Au fonctionnement du cerveau, comment nous traitons ces informations, et on essaie de tout combiner. Voilà, donc l'approche sémiotique pragmatique, c'est-à-dire qui est liée à l'action, qui considère que la signification est dans l'action qui résulte du traitement de l'information. Voilà, ça c'est la carte générale, c'est pas grave si vous ne voyez rien. C'est le tour qu'on a fait, on s'est posé la question d'analyse et on a résolu la question en disant que finalement ça ne marchait que dans les systèmes très simples et qu'en général il valait mieux utiliser des approches globales dans lesquelles on s'intéressait aux liens, aux liaisons, aux connexions. On a regardé que du côté des images, il y avait une très grande diversité, qu'on ne pouvait pas toutes les traiter sur le même modèle. Enfin, on a fait un petit parcours qui est ici en rouge, les métadiscours avec leurs différentes phases. Le métadiscours de type scientifique qui est celui que je vais présenter à la différence d'un métadiscours de type littéraire ou poétique. Et à l'intérieur de ce métadiscours de type scientifique, l'approche sémiotique, pragmatique. Voilà, c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter pour une raison très simple, c'est que c'est celui que je maîtrise le mieux et que je n'allais pas parler de choses que je ne connaissais pas. Et donc, je suis venu vous parler de choses que je pratique régulièrement et que j'enseigne. Alors, on a commencé par regarder un document photographique. J'y reviens. Voilà, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais essayer rapidement, parce que le temps est compté et que je suis arrivé en retard, de procéder à l'étude de ce document dans une approche de type pragmatique. Alors c'est un schéma à nouveau un peu lourd, mais c'est un support à ce que je vais vous dire, ce qui veut dire que si vous arrivez à les noter, eh bien vous aurez une trace qui vous permettra de retrouver ce que j'ai dit. Donc on va considérer d'une certaine manière que le document qui a été projeté n'était pas projeté dans un cadre quelconque, il a été projeté dans une situation de type conférence, dans un environnement scolaire, non pas dans sa taille réelle, d'ailleurs qu'est-ce que sa taille réelle, mais dans une situation de projection, et que donc vous l'avez vu de manière très agrandie, alors qu'en fait ce document tel que moi je le possède est beaucoup plus petit, puisque c'est une carte postale qu'on peut trouver dans les boutiques d'imagerie où on voit toutes sortes de documents visuels pour envoyer à des amis ou pour conserver, donc c'est une petite carte. Alors, considérons que nous sommes dans le monde, nous sommes communément dans le monde a différentes configurations, celle de ce matin en est une. Nous vivons dans un monde qui est particulièrement organisé par ce qu'on appelle en sémiotique pragmatique le mind. C'est difficile à traduire en français, ça pourrait être l'esprit, ce n'est pas très juste non plus de traduire comme ça. C'est-à-dire l'ensemble des connaissances et de l'utilisation de ces connaissances qui sont disponibles dans le monde entier. Là, par exemple, je fais comme si vous étiez tous de très bons élèves, avec un très bon niveau en philosophie, avec une vraie curiosité, mais vous avez l'air très curieux, parce que vous êtes sage en tout cas, et je présuppose que nous partageons le même mind, c'est-à-dire que nous sommes dans la même histoire intellectuelle, et que d'une certaine manière, nous avons presque les mêmes connaissances. Moi, j'en apporte des nouvelles, mais je fais comme si nous avions la même base. Par exemple, dans le document qui était présenté, j'ai fait comme si nous pouvions tous le reconnaître. Je n'ai pas imaginé, par exemple, ce qui pourrait être le cas, qu'il y ait dans cette classe, ou dans ce groupe de classe, des élèves aveugles ou malvoyants. J'ai présupposé que l'accès au monde visuel était immédiat. Alors qu'en fait, c'est pas du tout évident, il y a une grande partie de la population, 2%, qui a des grandes difficultés visuelles. Il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas vu grand-chose depuis le début. Je suis vraiment désolé pour eux. Mais voilà, j'ai fait ce présupposé. Je fais le présupposé aussi que nous avons en commun des croyances. C'est-à-dire que nous avons élaboré dans le cours de notre vie, dans le fait de vivre en France, à cette époque-ci, avec des trajectoires qui sont forcément différentes, plus jeunes que moi, que nous avons élaboré des croyances et que ces croyances sont relativement communes. Et que donc ce dont nous parlons, avec la langue que je parle, et que vous entendez, que vous comprenez, nous fondons cet échange sur un certain nombre de choses communes. C'est ce que nous appelons des croyances, pas nécessairement des croyances religieuses. Les croyances religieuses font partie des croyances. Il ne faut pas prendre dans son sens religieux, il faut prendre croyance au sens très général. Une croyance, c'est ce que je crois et je n'en doute pas. Même si, il est vrai, à mesure qu'on avance dans l'âge, peut-être, et dans le siècle, on est amené à douter de beaucoup de choses, de beaucoup plus de choses qu'on ne le pensait au départ. Néanmoins, par exemple, je ne doute pas du fait que vous êtes des humains. Je ne doute pas du fait que vous m'entendez. Je ne doute pas du fait que vous pouvez me comprendre. Je ne doute pas qu'à la fin de cette présentation, il y aura quelque chose qui se sera passé entre nous. Je ne doute pas du fait qu'il y aura eu du savoir transmis. Voilà. J'ai un petit doute quand même sur la fin. Alors, dans ce monde dans lequel nous avons des croyances partagées, nous sommes dans un état, sauf si nous dormons, c'est pas le cas encore ce matin, mais dans un état de conscience. Alors, c'est pas du tout psychanalytique, et vraiment la sémiotique persienne, la sémiotique pragmatique revue au cours du XXe siècle, du début du XXIe siècle, est presque à l'opposé de la psychanalyse. Qui, comme vous l'avez certainement remarqué, ne fait pas partie pour moi du discours scientifique. C'est un discours parmi les discours possibles. Et ici, si je parle de conscience et d'inconscience, d'une certaine manière, il ne s'agit pas d'inconscient freudien. Je ne sais pas si on étudie encore Freud aujourd'hui en programme de philosophie. Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce que ça faisait dans le programme de philosophie. Mais si vous l'étudiez, il ne s'agit pas de ça. Non. Il s'agit de l'inconscient cognitif, c'est-à-dire du fait de... Pour moi, par exemple, ici, en votre présence, de savoir que je suis dans un monde relativement stable, que mes pieds sont sur un sol stable et que je n'ai rien à craindre, ou pas trop à craindre, parce qu'il y a des fils, mais de cet environnement. Je ne suis pas obligé de gérer en permanence des informations pour mes pieds. Ils font ça tout seuls, de manière automatique. Je suis en permanence en train de traiter très directement, comme vous, de l'information automatique. C'est un niveau de conscience direct, ou auquel nous n'avons pas accès, sauf si nous prenons conscience d'eux, sauf si nous représentons notre activité. Je prends un exemple. Nous avons appris, difficilement au départ, à descendre des escaliers. C'était une épreuve, et puis nous avons résisté à cette épreuve, après quelques bosses souvent, et quand nos jambes ont un peu grandi, nous avons réussi à descendre ces escaliers de plus en plus rapidement, et en tout cas sans jamais plus y penser. C'est devenu une démarche vraiment automatique. Nos pieds, nos membres se règlent, notre vision se règle, on descend, on arrive en bas, en bon état. On n'est pas du tout obligé de faire un calcul pour descendre l'escalier. D'ailleurs, si on devait faire un calcul pour descendre l'escalier, si on se met à faire un calcul, c'est-à-dire si on se met en état discours par rapport à la descente de l'escalier, vous pourrez tenter l'expérience tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avance un pied, je le descends, qu'est-ce que je fais avec l'autre pied pendant ce temps-là? Je le prépare pour la descente, etc., etc. Où ai-je les mains? Comment j'incline mon corps, etc. Si vous faites ça, vous allez voir, vous allez très rapidement perdre l'équilibre. Parce qu'il va y avoir un conflit entre votre automatisme de gestion de la descente de l'escalier et le métadiscours que vous êtes en train de produire en attirant votre attention sur les marches, la hauteur des marches, la rampe, le corps, la position de vos membres, etc. Néanmoins, il nous arrive parfois de devoir penser à la descente d'un escalier. Quand on est tombé, par exemple, on dit « Mais où est-ce que je suis tombé? Comment c'est possible que je me sois cassé la figure à cet endroit-là » À ce moment-là, on va avoir une représentation. Ça, c'est l'activité qu'on produit quand on se met dans la situation de métadiscours. Ça nous arrive aussi. Apprendre, c'est votre âge, grosso modo, apprendre à conduire, c'est apprendre beaucoup de signes visuels et apprendre à traiter beaucoup de scènes visuelles dans lesquelles il y a de nombreux éléments qui sont en évolution, de telle sorte qu'on puisse y circuler sans risque. Ça, c'est un exercice qui au départ est très très complexe et pour lequel vous allez avoir un long temps d'apprentissage, parfois couronné d'échecs, et je l'espère pour vous, de succès, c'est-à-dire que vous allez réussir à conduire sans être tout le temps en train de vous dire que veut dire ce panneau, que veut dire cette situation, pourquoi cette voiture devant moi est en train d'agir de telle ou telle manière, qu'est-ce que je dois faire avec le levier de vitesse, qu'est-ce que c'est ces trois pédales et il y en a au moins une de trop, tout ça va devenir automatique. Mais il y a un temps pendant lequel vous allez apprendre, et au moment où vous apprenez, vous êtes tout le temps dans une situation de métadiscours, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de vous représenter ce que vous êtes en train de faire. Mais très rapidement, ce dispositif est géré par des habitudes. C'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire une prédisposition à agir. Si vous devez retenir un mot ce matin, c'est celui-là. Habitude égale prédisposition à agir. Apprendre, c'est intégrer des prédispositions à agir qui vont nous permettre de circuler, d'évoluer, de nous adapter au monde sans tout le temps être en train de penser à ce que nous faisons. Si nous devions faire cela en permanence, notre cerveau serait très très vite saturé et nous ne pourrions pas avancer dans le monde. C'est-à-dire le programme de tous ces chercheurs qui travaillent en intelligence artificielle, qu'aujourd'hui d'ailleurs on n'appelle plus l'intelligence artificielle, mais qu'on appelle la vie artificielle, sur le même principe que j'ai présenté tout à l'heure. L'intelligence artificielle, c'était un dispositif réductionniste, analytique, alors qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait, et qu'il fallait penser à des systèmes artificiels complexes, articulé, et donc on appelle ça la vie artificielle. Et donc, est-ce qu'un robot qui doit traverser une rue doit disposer d'un système de représentation de tous les cas de figure qui sont susceptibles d'arriver ? Un bus, un passager qui descend du bus au mauvais moment, un accident, un véhicule rapide ou lent ? Non, c'est impossible. Tout ce qu'on a essayé de faire dans ce sens-là a échoué. En revanche, on apprend au robot à constituer des prédispositions à agir sur la base de traitements complexes. C'est ce que nous faisons. Ce qui fait que la plupart des documents visuels auxquels, puisque je reste dans mon sujet, la plupart des documents visuels auxquels nous avons affaire, nous les traitons sur la base d'habitudes. Et ce sont ces habitudes qui nous permettent de fonctionner à très grande vitesse dans le monde, y compris dans le monde visuel. Quand vous voyez une publicité dans laquelle les images vont se télescoper les unes les autres toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, parfois plus rapidement encore, il est évident que vous ne pouvez pas analyser chaque partie de la publicité. Vous êtes soumis à un flux, et c'est grâce au système des habitudes, à tous ces automatismes que vous avez enregistrés et qui vont s'appuyer sur vos croyances, qui elles-mêmes ont été construites par la société dans laquelle vous vivez, par tous les apprentissages qui ont été faits avant vous puis par vous, que vous allez pouvoir interpréter les documents auxquels vous êtes confrontés. Alors, l'étude des documents visuels, c'est une sorte d'arrêt sur image. C'est le moment où on est en haut de l'escalier, on dit « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire pour descendre l'escalier ?» Et donc, on va décomposer nos habitudes. Mais ça n'est pas toujours le cas. On est parfois confronté à des documents, à des situations dans le monde dans lesquelles on est surpris. Nos habitudes sont perturbées. On n'avait jamais vu ça comme ça, sous cet angle, par exemple. On n'avait jamais imaginé qu'on pouvait représenter le monde de cette manière. On est même inquiet, peut-être, sur les choses. Par exemple, on voit quelque chose dont on sait que c'est de l'image de synthèse, mais en fait, ça ressemble tellement à la réalité qu'on se demande vraiment où est la partie synthétique dans ce document qu'on est en train de voir. Donc, s'inaugure à ce moment-là quelque chose qu'on appelle le doute. C'est pas vraiment le doute cartésien, c'est-à-dire un doute volontaire. Non, c'est un doute adaptatif. C'est-à-dire que l'habitude qu'on a l'habitude de produire, l'habitude qu'on a l'habitude de produire ne fonctionne pas. Ça échoue. On pensait que c'était ça, et puis c'est pas ça. Alors, on a un moment de doute, on revient sur ce qu'on vient de voir, si on a la possibilité de le faire, et on essaye de l'interpréter d'une autre manière. Soit on l'interprète avec une autre solution, une autre habitude qu'on a à sa disposition. « Ah, je me suis trompé, c'était pas ça. J'ai eu un stéréotype de pensée. Je vais passer par un autre chemin. » Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on entre dans la phase dite de recherche ou d'enquête. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une solution. Et cette solution qu'on va trouver, ou pas d'ailleurs, on peut la trouver seul, en étant confronté au document. On peut la trouver en interrogeant quelqu'un. On n'est pas seul dans le monde. On peut l'interroger en exploitant des systèmes de documentation, des livres, mais bien évidemment aujourd'hui Internet. Bref, on va se documenter jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution, c'est-à-dire qu'on ait reconstitué une habitude. En quelque sorte, être au monde, c'est s'adapter en permanence en sécrétant des habitudes, c'est-à-dire des prédispositions à agir pour ne pas se faire écraser dans le monde, pour ne pas être broyé, pour ne pas être égaré. En quelque sorte, notre vocation dans le monde, c'est de produire des habitudes. Et dans un monde relativement simple, les apprentissages se font dans la vie de tous les jours. Dans un monde relativement complexe, ces apprentissages se font grâce à des médiateurs, grâce à des institutions spécialisées. Et l'école est une de ces institutions spécialisées dans lesquelles on va raccourcir le moment de la recherche et de l'enquête. On va vous donner des méthodes pour enquêter. Donc étudier une image, ce n'est pas là pour vous aider à, à avoir des habitudes, ça on le fait spontanément, mais c'est plutôt être capable de fonctionner au moment où on a des doutes, c'est-à-dire au moment où ça ne marche pas, où on a l'impression de s'être trompé, où quelqu'un vous dit « on vous a menti sur ça ». « Ah bon ? Mais je l'ai cru, c'était une photo, c'était réel, je l'avais sous les yeux, j'ai vraiment cru ce que je voyais ?» Non, peut-être pas. Alors là, il faudra des outils. Et ces outils, ce sont les outils que les systèmes d'études des documents visuels, mais aussi du texte ou des mathématiques, ces outils vont vous être apportés par ces méthodes, et ces méthodes sont enseignées dans l'école. Voilà, dans l'école, dans l'université. Quand un document est stabilisé, quand on a secrété une habitude, cette habitude a une durée de vie très variable. Il y a des habitudes qui peuvent durer des siècles. Ce n'est pas une habitude par rapport à l'image que je vais présenter, mais pendant des siècles, des gens ont cru que le soleil tournait autour de la Terre. Et pour pouvoir imaginer que ce n'était pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre autour du soleil, il a fallu utiliser des images, il a fallu se faire une représentation de l'articulation entre les corps célestes. Et cette représentation-là, ce n'est pas une représentation qu'on a, nous, dans notre existence de tous les jours. On l'a de façon médiée, c'est-à-dire par l'intermédiaire de quelque chose, et notamment par l'intermédiaire de cartes célestes, par l'intermédiaire de plans de l'univers. Pour votre curiosité, sachez que 20 à 25% des Français ne croient toujours pas que la Terre tourne autour du Soleil. Dans leur expérience ordinaire, ils voient bien que le Soleil vient là, qu'il fait un petit tour et qu'il s'en va là-bas, et que manifestement, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à mettre en relation une information vécue et une information connue. Il y a une sorte de disjonction, un écart, et cet écart, ils ne parviennent pas à le gérer. Il n'y a pas que ça que les Français n'arrivent pas à gérer. Et donc, quand on passe d'un système à un autre, quand on évolue, quand on se transforme, on entre dans une phase de mutation. Ces mutations peuvent être très longues. Passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, ça prend plusieurs siècles. La preuve, c'est qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas fait le chemin. Parfois, ça peut être très court. On se fait une idée, hop, dans l'instant qui suit, on en change parce que ce n'était pas adapté, qu'on a trouvé une autre solution. Voilà. Prenons le cas, revenons rapidement à la situation de notre image. Vous avez écrit quelque chose et je vais vous demander de lever la main. Normalement, c'est un dispositif un tout petit peu plus long. Vous essayez d'être le plus vrai possible par rapport à ce que vous avez vu. Alors, je reviens au document. Voilà. Qui pense... Donc vous ne regardez pas ce que fait votre voisin, il n'y a personne qui peut se tromper dans cette histoire, vous le verrez à la fin. Qui pense qu'il s'agit de deux enfants, une petite fille, un petit garçon ? Levez la main. Voilà, donc tout le monde peut vérifier en regardant ses voisins qu'il y a des gens qui pensent ce système-là. Baissez la main, merci beaucoup. Qui pense qu'il s'agit du même enfant qui a été chez le coiffeur ? Voilà, on lève la main. Merci, vous êtes un peu moins nombreux. Mais il y a un groupe de gens qui pensent ça. Maintenant, qui n'a pas eu d'idée, n'a pas réussi à choisir ? Ah, c'est bien, dans cette salle, ici, tout le monde tranche, le monde est blanc ou noir. Mais en général, il y a des gens qui pensent comme ça, que, alors là, peut-être entre les deux, je n'ai pas choisi. Et puis, il y a même un quatrième cas, il y a des gens un petit peu paranoïaques, mais c'est normal aujourd'hui, qui pensent que ça, c'est des photos, c'est une photo truquée, et qu'il y a eu un passage par Photoshop, logiciel que vous connaissez certainement, et que c'est probablement de ça que vient la difficulté à traiter cette information. Y en a-t-il ? Ah voilà, une, deux, donc il y a deux paranoïaques, trois dans cette salle. Non, c'est une plaisanterie, hein. N'allez pas voir un psychiatre aussitôt parce que j'ai décrété ça, c'est une vraie plaisanterie. Hein. Alors, oui, c'est possible aujourd'hui, vous avez certainement raison, il y a bien des documents qui sont retouchés, pour ne pas dire tous les documents sont retouchés, et donc, oui, il y a le passage par Photoshop pour la plupart de ce qu'on voit à la télévision, au cinéma, dans les magazines, et même dans nos propres photos, hein, quand on a les yeux rouges, on les enlève, etc. Donc on sait très bien ce que c'est que retoucher une photographie. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que dans la même population, dans le même monde, là où nous croyons partager les mêmes croyances, là où nous avons la même expérience de la photographie, c'est un document photographique, là où nous avons la même expérience de l'humain, ce sont un ou des enfants, en tout cas, pas de doute, c'était pas d'autres configurations, Eh bien, dans cette situation qui est la nôtre, alors que nous croyons partager la même expérience, alors que peut-être votre voisin ou votre voisine est quelqu'un de très proche de vous, il vient de faire un processus interprétatif qui produit quelque chose de très différent de ce que vous avez produit, et même de radicalement différent, parce que comment peut-on faire plus radicalement différent que c'est le même enfant ou ce sont deux enfants ? C'est le même enfant qui était chez le coiffeur ou c'est une petite fille et son petit frère, et peut-être même parce qu'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des jumeaux. Et peut-être même qu'ils se ressemblent tellement que ce ne sont pas des jumeaux, ni un petit frère, ni une petite sœur, mais c'est le même avant d'aller chez le coiffeur. Comment en décider ? En fait, si vous étiez en train de faire une interprétation de ce document visuel, et que votre professeur avait lui aussi fondé son idée sur, imaginons, un passage chez le coiffeur, il voulait absolument que vous étudiez la question de la séquence, et donc de la présentation avant-après, et vous avez vu deux enfants, une petite fille aux cheveux longs et un petit garçon aux cheveux courts qui se ressemblent beaucoup, des jumeaux, vous êtes parti sur l'histoire des jumeaux. Si votre professeur est très strict, il dit « mais vous êtes complètement hors sujet, vous ne savez même pas voir, vous êtes idiot ». D'une certaine manière, confondre. Et inversement, si votre professeur voulait vous faire travailler sur l'expression du visage, et particulièrement douloureux chez la petite fille, un tout petit peu moins chez le petit garçon, etc., et que vous lui racontez une histoire de coiffeur, il va dire « mais c'est un délirant ». Et pourtant, ces informations sont bien là, et pourtant vous avez fait ces chemins, et pourtant vous n'aviez pas l'impression, quand vous avez écrit votre petite phrase, que vous étiez en train d'intégrer une petite théorie à votre description. Une petite théorie qui, d'emblée, signifiait d'un côté, ce sont des images en séquence d'un événement qui s'est déroulé dans le temps, et de l'autre, ce sont des photographies qui ont été prises soit en même temps, soit l'une après l'autre, de deux personnages différents. Alors, je vois qu'il y a un petit peu d'agitation. Aurais-je été trop long ? Alors, là, on va gérer le temps ensemble. Ce qui veut dire quoi ? D'accord. Alors, voilà, vous aurez été jusque-là avec moi. Merci d'avoir assisté à cette partie. Au revoir. Et je reste avec les autres. Alors, évidemment que personne n'en profite pour sortir, hein. Alors, pendant cette petite sortie d'un peu plus de 10 élèves. Au revoir. Donc je suis désolé, si vous devez sortir en plein milieu, c'est parce que je suis arrivé en retard, je le rappelle, je suis très coupable. En fait, c'est la SNCF qui est très coupable, d'ailleurs. Alors, comment peut-on faire ? En fait, on est devant ce qu'on appelle un parcours d'interprétation qu'en sémiotique, on appelle une sémiose, c'est-à-dire un chemin que vous avez fait pour arriver à l'idée deux enfants photographiés ou bien un même enfant avant d'être passé chez le coiffeur, après d'être passé chez le coiffeur, au passage, si c'est la bonne histoire, un coiffeur qui n'est pas un très bon coiffeur ou un enfant qui a les cheveux particulièrement rebelles. Et donc là, fatalement, on a deux... Avant que je confronte vos deux idées, vos deux sémioses, on retient le mot sémiose, hein, c'est un parcours de signes, avant que je ne les confronte, vous étiez installé dans votre interprétation. Maintenant qu'il y a les deux, vous êtes en train de mesurer en quoi votre interprétation vaut plus que l'interprétation des autres. Pour certains, d'ailleurs, la révélation d'un autre parcours possible est l'occasion d'un changement. Ils vont muter, ils vont faire une petite mutation et ils vont dire maintenant, non, finalement, j'ai d'abord pensé que c'était des jumeaux, mais non, finalement, c'est des enfants qui ont été chez le coiffeur. Ou, d'abord, je pensais que c'était un enfant qui avait été chez le coiffeur, mais finalement, non, je pense que c'est des jumeaux. Donc, il va y avoir une mutation. Et puis, il y a aussi toute une partie d'entre vous qui ne va pas réussir à résoudre le problème, c'est-à-dire une partie qui ne va pas trancher. Y en a-t-il qui aujourd'hui, à cet instant, maintenant, ne sait plus de quel côté aller ? Levez la main. Oh, vous n'êtes pas très nombreux, hein. Vous êtes très fidèles à vous-même, en quelque sorte. Voilà, un petit peu plus que tout à l'heure. J'influence le public, là, j'insiste pour qu'il y ait des mains qui se lèvent. D'une certaine manière, l'étude sémiotique, c'est toujours l'étude d'un débat. D'un débat soit entre soi-même, le moment où on prend une orientation ou une autre, soit avec d'autres personnes, soit avec toute une communauté. On peut prétendre quelque chose, le défendre, etc. Là, on n'a pas le temps aujourd'hui de le faire, mais ce serait très intéressant d'ouvrir un débat. Le débat porterait sur la question suivante. Montrer comment, dans ce document visuel, avec les informations que vous disposez, y compris celles que j'ai présentées, montrer comment on peut défendre la thèse, ce sont des jumeaux, ou la thèse, ce sont des photos successives après un passage chez le coiffeur. Et là, vous auriez à regarder comment les choses s'organisent, comment on construit le fait, par exemple, de petite fille, petit garçon. J'imagine que personne n'a eu l'idée, dans ceux qui avaient la thèse une petite fille, un petit garçon, personne n'a eu l'idée de considérer que le petit garçon était le personnage avec les cheveux, le personnage avec les cheveux longs. Ça veut dire que ça renvoie à une croyance, à une habitude, qui est les personnes de sexe féminin ont en général les cheveux plus longs que les personnes de sexe masculin. Mais en général, c'est une sorte d'habitude, de convention, qui d'ailleurs dans l'histoire a aussi son temps de vie. Tous les hommes n'ont pas toujours eu les cheveux courts, et je vois mal dans la salle, mais il y a probablement un garçon qui a les cheveux longs, et il y a certainement des filles qui ont les cheveux très courts. Donc la longueur des cheveux, qui est pourtant une habitude pour traiter de l'information, n'est qu'un indice pour informer le monde auquel nous avons accès, y compris le monde visuel. Mais nous y avons eu accès, et si on s'interrogeait sur ça, on verrait que cette croyance fondée sur qui elle-même va déboucher sur une habitude a permis de construire l'idée petite fille, petit garçon. Alors, là, j'ai besoin de savoir de combien de temps je dispose. 5 minutes. D'accord, on va aller relativement vite. Je vais entrer à l'intérieur du signe. Là, pour le moment, je suis resté à l'extérieur, en quelque sorte. Le schéma qui est sur la droite dit le processus de mutation. Dans la sémiotique pragmatique, le signe n'est pas composé de deux parties, le signifiant et le signifié. Ça, on oublie, il vaut mieux, ou en tout cas, on le renvoie à une théorie particulière qui est très datée et qui est très contestée aujourd'hui. Le signe est plutôt conçu comme un dispositif à 3 entrées. Alors, ce serait très long d'expliquer ça dans le détail, je vais résumer. Les 3 composantes du signe, donc qui sont solidaires, ça ne fait signe que s'il y a les 3 ensemble. Il faut qu'il y ait, alors c'est indiqué ici, les noms pourraient être contestés, mais ce sont les noms qu'on utilise. Hein. Donc l'objet du signe, c'est-à-dire ce dont le signe est à propos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le représentamen, c'est-à-dire qui va représenter le signe. Alors, qui va représenter la chose qui va faire signe dans le signe. C'est un petit peu compliqué, ça. Mais on considère toujours qu'on n'a pas accès aux objets directement. On a toujours accès aux objets par de la représentation, d'une certaine manière, ou par de l'action. Donc, ce qui capte l'attention, c'est l'aspect pertinent. Donc, ici, c'était les différentes valeurs de gris, l'ondulé des cheveux, par exemple. Ce qui permet de... Et le 3e composant, c'est l'interprétant. L'interprétant, c'est pas l'interprète, c'est pas vous. C'est la petite règle que vous avez enregistré dans vos croyances, c'est la petite habitude dont vous disposez pour interpréter. Par exemple, la petite règle « cheveux longs égale fille ». Cette petite règle-là, quand elle est adaptée à la situation zone grisâtre, bouclée, ou en tout cas fibreuse, de type capillaire, constitue l'objet qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire cheveux, cheveux de fille, par exemple. Donc, il faut la contribution des 3 représentamen, objet et interprétant pour faire un signe. Une fois que le signe est constitué, soit il est stable, c'est-à-dire ça marche, oui, c'est des cheveux, parce que c'est une tête, parce que c'est une photographie d'un personnage, c'est un humain, donc c'est pas des poils quelconques, c'est des cheveux sur la tête d'un humain enfant. Et donc, mon hypothèse de signe tient la route, je peux la conserver. Si on était dans une autre situation, si par exemple on débouchait sur perruque, alors peut-être que cheveux serait enrichi de quelque chose qui est un tout petit peu décalé, qui n'a pas l'air complètement naturel et qui donne plutôt l'impression de, pas cheveux propres du sujet, mais cheveux ajoutés, perruque. Donc on voit que le signe peut muter. C'est ce qui est représenté sur votre droite, c'est-à-dire que le signe, une fois qu'il est constitué, il va s'enrichir, il va muter. Ça n'est pas de la dénotation-connotation comme on utilise en sémiologie. Là, c'est de l'enrichissement du signe. La vocation des signes, c'est de s'enrichir, de devenir toujours plus complexe. Parfois de se stabiliser pour qu'on puisse agir. Et quand ils sont stabilisés, ils peuvent se déstabiliser à nouveau. Alors, je vais passer un peu vite parce que je n'ai que très peu de temps. En fait, on n'arrive jamais à faire la différence entre les deux thèses. Est-ce que c'est un enfant qui était chez le coiffeur ou est-ce que c'est un couple de jumeaux photographiés? C'est impossible. J'ai déjà projeté cette photographie des centaines de fois. Personne n'a jamais réussi à faire la différence. Les deux thèses peuvent coexister. La photographie est ambiguë. Le document est ambigu. On ne peut pas décider. Et pourtant, il y a des endroits où on pourrait décider. Par exemple, c'est juste un petit truc très très rapide. Le système de boutonnage, c'est quelque chose qui est une habitude, qui a été enregistré. Les pans des chemises, des vestes, des gilets, etc., sont réglés par un dispositif, peut-être que vous le connaissez, qui fait que le boutonnage des femmes n'est pas le même que le boutonnage des hommes. Alors, les femmes, en général, ne le savent pas parce qu'elles utilisent beaucoup de vêtements mixtes, et les hommes le savent parce que le jour où ils utilisent une veste de femme, par hasard, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a un problème, ça ne se boutonne pas du tout dans le bon sens. D'ailleurs, ils ne le savent pas forcément, preuve que ce n'est pas nécessairement par une représentation que ça passe, c'est-à-dire que la majorité des gens à qui j'annonce ça ne savent pas du tout que ça marche comme ça, qu'il y a une règle, que les tailleurs suivent cette règle. Ils le savent par l'action. Et c'est simplement le jour où ils sont contrariés dans leur action qu'ils découvrent que la veste n'est pas à eux, mais pas nécessairement que le système de boutonnage est un système qui est codé, régi par des conventions. Preuve que ça n'est pas codé, c'est que les femmes portent des vêtements avec des systèmes de boutonnage hommes et femmes. Donc on pourrait dire, mais puisque le boutonnage est d'un type masculin, c'est la preuve que c'est un petit garçon qui est passé chez le coiffeur. Oui, mais cette thèse ne tient pas très longtemps, parce que les jumeaux sont souvent habillés de la même manière. Et puis les femmes portent aussi des vêtements mixtes, donc la petite fille peut très bien porter des vêtements mixtes. Et puis les jumeaux qu'on habille de la même manière avec des vêtements mixtes peuvent très bien porter le même système de boutonnage, donc la thèse ne tient pas. Alors comment peut-on résoudre ça? On peut s'arrêter là. On peut dire qu'il y a là une hésitation, une ambiguïté qu'on ne peut pas résoudre. Nous n'avons pas d'informations collatérales supplémentaires pour passer l'étape suivante. Alors, en quelques secondes, une carte postale, en général, ça possède une légende. Et donc, nous allons devoir recourir à du texte pour résoudre notre problème, ce qui est quand même assez difficile comme situation. C'est-à-dire que l'information visuelle de type photographique ne nous suffit pas pour savoir s'il s'agit du même enfant ou de deux enfants. Ce qui est un vrai drame quand même pour l'espèce humaine de ne pas pouvoir faire la différence entre le même et la différence, c'est inquiétant. Alors effectivement, au dos de cette carte, il y a un texte. Donc, j'ai photographié le dos, mais vous n'allez rien voir, mais c'est juste pour vous prouver que c'est vrai. Donc au dos, il y a un texte qui dit, c'est en anglais, « First haircut », première coupe de cheveux. Voilà, l'affaire est résolue. Il s'agit d'une première coupe de cheveux. C'est pas du tout des jumeaux, il n'y a pas de petite fille, pas de petit garçon, tout le monde est déçu. Il faut faire une mutation rapide, il faut changer de camp, il faut passer de l'autre côté et abandonner l'hypothèse de la gémellité, de la ressemblance, des cheveux longs, les filles ont les cheveux longs, les garçons ont les cheveux courts, etc. Définitivement, c'est une coupe de cheveux. Il s'agit quand même d'un problème de cheveux, mais le voilà résolu. D'ailleurs, pragmatiquement, c'est-à-dire dans l'action, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Je ne serais pas resté devant la vitrine du magasin. En fait, c'est sur des présentoirs. En fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on dit, tiens, c'est marrant, la tête qu'ont ces deux gosses. On prend le document, on lit. Et si on lit l'anglais, évidemment, encore faut-il avoir accès à l'anglais. On dit, ah, première coupe de cheveux, ah oui, oui, oui. Voilà, c'est réglé. On a muté très, très vite. On a changé très, très, très vite. C'est pour ça qu'on met des légendes en bas des photographies, c'est pour que les gens ne fassent pas des chemins différents. C'est pour que tout le monde aille sur le même chemin. Le problème est donc résolu grâce à la légende, dont on dit, c'est un terme qui avait été utilisé, bon, ça fait longtemps qu'on l'utilise, ancré. C'est-à-dire que la légende va ancrer la sémiose, ancrer avec un A, hein, on jette une encre dans la possibilité de diverger, de d'avoir plusieurs processus interprétatifs. On pourrait considérer que c'est résolu. Et pour moi, ça l'était pendant longtemps. C'est simplement un jour, j'ai fait travailler des gens sur ce document et qui ont dit « petite fille, petit garçon ». Pour moi, c'était un passage chez le coiffeur et je voulais travailler sur la séquence dans cette image. Et donc, tout à coup, j'ai découvert qu'il y avait un autre processus interprétatif que j'avais ignoré. Mais, et c'est la dernière étape de mon intervention, comme j'ai travaillé sur ce document que j'ai trouvé intéressant, je l'ai publié. Et quand j'ai dû le publier, j'ai dû acheter les droits de reproduction. Et quand j'ai acheté le droit de reproduction, j'ai dû appeler le lieu dans lequel cette photographie est conservée aux États-Unis, à Harvard, l'université d'Harvard, dans un centre particulier, le Carpenter Center for Visual Arts. C'est le lieu de conservation, ça n'a rien à voir, c'est juste documentaire, c'est un bâtiment construit par Le Corbusier. Donc je les ai appelés, je leur ai demandé de me livrer le document, ils me l'ont livré, quand je l'ai reçu, ça n'était pas le bon document. Donc j'ai dû appeler et j'ai été en relation avec la documentaliste. Et je dis, après qu'elle m'ait assuré qu'elle allait m'envoyer le bon document, avec le bon film pour la reproduction, pour l'imprimeur, le document je l'avais bien évidemment, mais je dis, mais puis-je vous poser une petite question, comment vous nommez vos photographies au Carpenter Center? Comment fonctionne votre système de documentation? Par exemple, le document, moi je l'appelle, parce que c'est sur une carte postale, First Haircut, est-ce que c'est comme ça que vous l'appelez? Elle dit oui, tout à fait, c'est comme ça que nous l'appelons. Et je dis, mais qui décide du nom à donner à la photographie? Elle dit, bah, c'est les documentalistes, on reçoit des tas de photos, on les regarde, on leur donne un nom. Ça veut dire quoi? Que si madame ou monsieur un tel documentaliste dans Carpenter Center pense que c'est deux jumeaux, il écrit Twins, ou il invente des prénoms, Marie et Pierre. Et s'il pense que non, ça ressemble vraiment à une coupe de cheveux cette histoire, il appelle ça première coupe de cheveux. Et nous venons de muter à nouveau, c'est-à-dire que nous n'en savons rien. Comment aller plus loin? Il faudrait que je me rende au Carpenter Center, que j'aille voir où est conservé ce document, que je regarde dans quelle liasse de documents, que je reconstitue son environnement, s'il est avec d'autres documents d'un photographe, c'est un studio de photographe, Sullivan Studio, et que ce photographe a fait de nombreuses photos de ce genre-là, c'est-à-dire des enfants qui se font couper les cheveux pour la première fois, parce qu'il était proche d'un coiffeur, par exemple. Alors, parce que j'aurais beaucoup de photos de ce genre-là, je pourrais dire, oui, non, c'est la coupe de cheveux. Si, en revanche, il n'y a pas de photos de ce genre-là, que c'est la seule photo, et que c'est quelqu'un qui faisait des photos, des portraits, alors il a peut-être simplement associé des jumeaux, et pour le moment, je n'en sais rien. L'ambiguïté demeure. Souvenez-vous, nous avons fait le chemin de la sémiose, nous avons vu qu'il y en avait plusieurs, nous avons cru pendant un moment que nous pouvions arrêter la sémiose grâce à une habitude qui consiste à dire que la légende est l'information qui permet d'arrêter le processus d'interprétation. Et puis finalement, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand on approfondit, on découvre parfois que les choses qu'on croyait certaines ne le sont pas, et il faut aller plus loin encore. Ce qui veut dire que bien évidemment, le jour où j'irai à Cambridge, Probablement, je prendrai rendez-vous, parce que c'est un problème que je veux résoudre. Je veux savoir quelle est la vérité de ce document que j'ai vu mille fois et dont je ne sais pas s'il s'agit de deux enfants ou d'un seul. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention.